Donc je répète, du coup, pour les gens qui continuent d'arriver, on a mis les liens aussi dans les notes partagées. Alors évidemment, vous pouvez utiliser le chat qui est là, hein, mais on a aussi un autre chat qui est sur ESUP, sur l'infrastructure ESUP, qui est ouverte à tout le monde normalement, pour prolonger les échanges, s'il y avait des questions, ou des envies, de discuter. Nous, on est connectés régulièrement aussi sur ce chat-là. Voilà. Bon, bah allons-y.
Commence.
Ça y est. Alors, ben, merci à tous, hein, d'être là. Alors, on espère que vous nous entendez tous bien. Je pense que c'est le cas. Ben, on va faire à l'ordre du jour. On va présenter rapidement le GT. On va prendre 5 minutes pour vous présenter l'initiative. Après, on va passer tout de suite la main à Nicolas qui va nous présenter, faire une sensibilisation, une introduction à Quarto. Je vais reprendre la main 5 minutes pour parler un petit peu de packaging. J'essaierai de rester pas trop compliqué afin de dire simplement qu'est-ce que c'est le packaging, en quoi c'est important et les problématiques qui sont liées à la reproductibilité justement de Quarto et en quoi c'est important de packager Quarto pour ça. Il y aura une revue d'articles par Raphaël. On garde du temps un petit peu pour la discussion avec le public et les intervenants. Ce qui n'empêche que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation, évidemment. Et puis, on essaiera de lire ou vous pourrez le dire à l'oral, mais on peut aussi lire ce qui se passe dans le chat pour évoquer les questions à l'oral.
Sur la nature du webinaire, donc c'est une proposition collaborative. Donc là, on vous a juste mis la capture d'image, mais vous avez les éléments dans le guide. Et voyez que pour ce webinaire, en fait, on a déjà eu des discussions pour le construire. Voilà. Donc il y a une séance le 13 avril. Au mois de mai, c'est le 11 mai, et
Et
une
le
autre au mois
15 juin.
le 15 juin, c'est le jeudi, hein. Voilà. Donc on passe à la présentation.
Oui. Allez, c'est parti. Du coup, rapidement, la genèse, l'idée, c'était de travailler d'abord sur un atelier reproductible dans le cadre du cycle de vie de la donnée ici en Normandie. Et en fait, de présenter le notebook dans tous ses aspects, dans sa complexité, en fait. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, l'objet notebook, il peut être vu dans sa complexité par rapport à la publication, par rapport à la reproductibilité, par rapport à l'interactivité, par rapport à l'interdisciplinarité, enfin, tout un tas de dimensions qui nous intéressaient. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut monter un groupe de travail un peu interdisciplinaire. Donc,
Pardon.
on a envoyé des mails plusieurs personnes ont répondu à l'appel. Donc, on a co-construit un premier atelier reproductible qui est sur le dépôt. Et l'idée, c'était de faire une sensibilisation de cet objet-là au travers des différents prismes disciplinaires et d'évoquer un petit peu sur chaque axe quelles étaient les problématiques sur la reproductibilité, etc. Derrière, on avait envie de continuer, hein, cet atelier, de prolonger les échanges et nous est venue donc l'idée de continuer sur des webinaires. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'est évidemment que ce soit le plus inclusif possible. On est ouvert à toutes les participations, de toutes les disciplines, de toutes les pratiques, dès lors qu'elles respectent quelques règles communes. Alors évidemment, c'est un peu les mêmes que celles qu'on trouve dans l'ESR. Et on va essayer d'écrire un petit guide de participation ou ce qu'on pourrait appeler un petit manifeste pour qu'on puisse tous collaborer de manière intelligente ensemble.
En fait, il y a eu beaucoup d'échanges suite à la dernière réunion et on a tenté de faire une synthèse en fait de ces échanges sur le petit groupe qui s'est déjà constitué pour élaborer en fait les quelques principes et règles qu'on se donne collectivement, voilà, et puis avec ses objectifs bien entendu. Donc voilà les objectifs.
Les objectifs, du coup, j'en ai dit une partie, l'interdisciplinarité, hein, parce qu'évidemment, ça se construit dans le dialogue et dans la durée. Donc, on a voulu que, ça partait un peu des SHS, mais on a voulu vraiment qu'il y ait tout le monde, parce que le notebook, on voit bien qu'il y en a dans toutes les disciplines, avec des problématiques assez différentes, finalement. Et d'avoir, du coup, de monter des axes de réflexion, hein, et de veille autour de cet objet-là, à différents niveaux, en abordant différentes questions, que ce soit épistémologiques ou sur l'écosophie, par rapport aux pratiques du numérique. La littératie aussi, hein, comment repenser l'écriture par rapport au fait qu'on écrit sur une machine. Et la reproductivité qui est transversale. Évidemment, c'est des propositions et il y a d'autres axes de réflexion possibles. Enfin, ben voilà, l'idée, c'est de le mettre en action avec des actions qui sont conçues comme étant un peu émergentes. C'est les gens qui participent du GT qui ont fait remonter aussi des envies. Donc, il y a une liste de diffusion pour coordonner tout ça, des sous-groupes par axe d'intérêt, le webinaire et puis une veille aussi sur les outils. On aimerait bien arriver à mettre en place une journée annuelle, un peu de discussion et de retranscription des différents groupes de travail qui auront collaboré tout au long de l'année. Et voilà, et j'espère qu'on n'a pas été trop long, et je laisse la parole à Nico sur qui va se présenter du coup, et puis qui et je lui passe la main. Je lui passe la main. Voilà.
Merci Sébastien, merci Raphaël. j'en profite le temps que on passe. Merci. En fait, ça me fait plaisir de pouvoir renvoyer l'information parce que Sébastien, en fait, en 2015-2016, il avait fait un cours Python ou dans la licence où j'étais. Et il y avait un truc, alors je sais plus si c'était du Geekbook ou alors est-ce que ça va être celui-là d'écran? Non, ça va être l'autre. Je sais plus si c'était quoi qu'il utilisait pour créer ses cours. Et j'avais trouvé ça super, et du coup ça m'avait donné un petit peu le... C'était avant, connaître la tech et tout ce qui est fun comme ça. Et ça m'avait donné envie de générer de la documentation. Et puis aussi Thierry Feuillet, donc bon, j'espère que ça sera assez compréhensible, parce qu'en général c'est plutôt l'inverse. Thierry montre des choses et puis je comprends pas. Je comprends après, mais là j'espère que ça sera suffisamment compréhensible pour tout le monde. Alors, une petite introduction à Quarto. C'est assez récent, ça a été développé en 2020, la version 1 est sortie en 2022, on est actuellement à la version 1.2.4 je crois, et c'est développé par une boîte qui s'appelle Posit, mais que vous connaissez peut-être certainement sous le nom de RStudio, puisqu'ils ont changé de nom aussi l'année dernière. L'avantage, alors ça ressemble beaucoup à Jupyter Notebook, c'est-à-dire que c'est multilangage, on peut faire du Python dedans, on peut faire du R, on peut faire du Julia, on peut faire du Observable. Je vous montrerai trois notebooks dans la démo, je vais essayer d'être assez rapide sur la présentation. Ça marche pour ces quatre langages, c'est pas encore prévu pour que ce soit facile d'accès pour d'autres langages. J'y reviendrai un petit peu, mais ça marche très bien avec R, puisque... C'est toute la philosophie de R Markdown qui a été portée et sortie extrait d'un petit peu de R pour être plus compatible avec d'autres langages. Mais donc ça marche très très bien avec R. Ça marche bien avec Python, il y a encore des améliorations à faire. Observable aussi, ça marche plutôt bien. Et Julia, je ne sais pas, je n'ai pas testé. C'est multiplateforme. Hein. Dès le départ, les binaires sont compatibles avec plusieurs systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Windows ou macOS. Et c'est multi-format. Ah, tiens, j'ai pas ma barre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des rapports, que ce soit des rapports HTML, en PDF ou en DocX, des présentations, Reveal.js comme cette présentation que je vous ai montrée, Beamer, PowerPoint. Normalement, je suis censé avoir une barre, mais elle s'affiche pas. Alors, est-ce que j'arrive à réduire le zoom? Voilà. Mais on peut aussi générer des livres type Geekbook ou des sites web. Donc les présentations, par exemple, cette présentation est faite avec Quarto. La présentation qu'a fait Raphaël a été faite avec Quarto. Et elle a repris le template, elle a repris ma présentation que je l'ai poussée hier. Et elle a adapté. Donc c'est quand même assez facile de générer des choses, et le site web du GT est aussi fait avec Quarto. Donc ça permet de gérer soit des sites web classiques ou type blog. L'intégration elle est plutôt large. À la base, Quarto c'est un outil en ligne de commande, donc vous pouvez l'appeler avec ce que vous voulez, Make par exemple pour générer ou Bash en ligne de commande, mais c'est aussi intégré dans des éditeurs, la plupart des grands éditeurs de code dans le monde de la science des données. Donc on va retrouver RStudio bien évidemment, hein, puisque le lien avec Posit est assez fort, mais il y a un plugin VS Code qui marche plutôt bien, On pourra en reparler, je vous ferai une démonstration sur VS Code. Et ça marche aussi avec les Jupyter Notebooks. Alors, pour faire un petit bilan, quelques avantages. Bon, c'est du fichier texte en Markdown. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Jupyter Notebook, un fichier Jupyter, c'est un fichier qui va être en JSON. Et donc, ça va être assez compliqué à lire. Alors que là, le fichier est en Markdown et dedans, vous avez des blocs de code qui sont intégrés au texte. Et vous allez pouvoir interagir avec les blocs individuellement ou avec l'entièreté du document. C'est basé sur Pandoc, principalement, ce qui fait que vous allez pouvoir accéder à toute la documentation de Pandoc, mais aussi toutes les fonctionnalités de Pandoc, notamment les scripts LUA pour faire des choses particulières, ou des templates. Hein. Si vous avez des templates spécifiques, vous allez pouvoir templater, avoir des modèles de documents que vous allez pouvoir appeler pour générer des documents qui correspondent à votre organisation. Et comme je disais, c'est basé de tous les enseignements de R Markdown. Donc déjà, R Markdown était assez puissant et le but c'était de faciliter la vie des utilisateurs. Et ils en ont profité pour faire des améliorations et des choses qui ont changé entre, par exemple, Sharingan, qui était la version R Markdown de ce type de présentation. La syntaxe a changé et je la trouve plus simple, plus claire à suivre. Donc il y a des améliorations aussi qui ont été faites en termes de syntaxe. Et il y a aussi énormément d'extensions, vous pouvez rajouter des extensions. Alors l'avantage c'est que au lieu d'être une constellation de packages R, là vous avez un seul utilitaire qui permet à partir de différents documents de faire plusieurs choses. Et vous avez aussi des extensions qui sont intéressantes. Il y a des templates pour certains journaux type Elsevier et compagnie. Mais il faut aller regarder un petit peu les extensions. Parce que je pense que on peut peut-être trouver des choses intéressantes. L'inconvénient, ce qui pourrait rebuter certains, c'est que c'est en ligne de commande. C'est juste parce qu'il fallait que je mette un inconvénient parce que j'en cherche encore. Mais comme je le dis, la plupart des éditeurs de code vont proposer des plugins qui vont permettre d'interagir avec Quarto assez facilement. Donc je vous invite à aller regarder les extensions personnalisées. Et puis il y a aussi, j'ai mangé son nom, une personne qui entretient une liste de présentations sur Quarto, d'outils, d'exemples, d'articles. Donc si vous avez besoin de... Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est des exemples, voir comment les gens ils ont fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et donc ça, c'est un excellent point d'entrée. Hop. Je vais basculer sur la démo. Alors, comme je vous disais, cette présentation, elle est faite avec Quarto. Et en fait, là, donc, je suis dans RStudio. Alors, je vais juste revenir sur le partage pour voir s'il n'y a pas des questions. Hop, non, je ne suis pas là. S'il n'y a pas de problème, tout va bien. Je vais mettre là. Donc ce document est un document Quarto, donc ça ressemble à du R Markdown pour ceux qui connaissent, hein, donc un en-tête en YAML, des métadonnées dans l'en-tête, et après vous avez votre document. Alors l'avantage quand vous êtes dans RStudio, c'est que vous avez accès au mode visuel, ils appellent ça le visual editor, ou au mode source. Et là le mode source, vous avez du Markdown classique, hein, avec la syntaxe, les croisillons pour les titres. Donc à chaque fois qu'il y a un titre de deuxième niveau, ça sera une nouvelle slide. Et puis une syntaxe avec ici des liens vers des images. Et vous pouvez passer des paramètres entre accolades pour placer, donner la taille de vos images. Jusqu'ici, tout va bien. Après, quand vous passez en mode visuel, vous avez le rendu immédiat, un petit peu comme dans un éditeur de texte classique. Et puis vous avez aussi des petits outils qui vous aident à insérer des images, insérer un certain nombre de choses, les citations, les références croisées. Le mode visuel est plutôt bien fait dans RStudio. Et donc, cette présentation, elle est rendue, voilà, pour le coup, quand je l'enregistre, ça va m'enregistrer le, ça va me rendre le document. Mais je voulais vous montrer des notebooks. Alors là, je suis dans VS Code. Et donc là, je suis sur un notebook Jupyter, et donc Python 3. Et donc chaque cellule là, donc va être comme en R Markdown, c'est trois backticks et puis le nom du langage en tracolade pour dire que c'est une cellule qui sera active. Mais je peux dérouler chaque cellule. Alors après, c'est va être écrit en tout petit, vous allez peut-être pas le voir, mais il va lancer Jupyter derrière. Donc la première fois, c'est un peu long. Le temps qu'il se connecte à l'environnement, qu'il fasse tout ça. C'était un petit peu plus rapide ce matin. Est-ce que c'est la vidéo qui le perturbe? Ou alors c'est peut-être l'effet démo, je ne sais pas. Bon, je vais basculer sur un autre. Ah bah si, il est parti, ça y est. Voilà, donc vous allez avoir soit la possibilité de lancer chaque cellule indépendamment. Donc là, je lance chaque cellule indépendamment et je vais avoir le résultat qui va apparaître donc sur la droite, comme si j'étais dans Jupyter Notebook. Mais ici, j'ai ce petit bouton render qui va me permettre de rendre le document complet. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Hop. Il m'ouvre plein de fenêtres parce qu'il va chercher Jupyter. Soit en HTML, soit en PDF. Eh ben, il a foiré. Et non, c'est bon, il va passer. Mais bon, c'est encore pareil, il faut qu'il lance le Jupyter, le kernel Jupyter. C'est long la première fois, j'aurais peut-être dû la relancer un petit peu avant la démo, mais je pensais que ça serait suffisant pour aujourd'hui. Voilà, donc là il va rendre le notebook complet. Bon, c'est peut-être un peu petit pour que vous arriviez à lire. Voilà, et donc là j'ai tout le notebook qui a été réinterprété. Et c'est interactif, c'est-à-dire que là, par exemple, je survole les données qui sont issues de Gapminder, et si je survole une bulle, je vais avoir des informations sur un pays. Bien sûr, évidemment, j'ai préparé mon environnement pour qu'il fonctionne avec Plotly, Matplotlib, NumPy. J'avoue que c'est là où j'ai perdu le plus de temps. C'est de préparer l'environnement parce que moi je fais beaucoup de R. En parlant, alors je vais pas vous faire de démonstration de R parce que ça marche vraiment out of the box, mais je vais vous parler de Observable. Alors Observable, c'est des notebooks en JavaScript. C'est une entreprise qui a été fondée par le créateur de D3JS, donc librairie et JavaScript de visualisation de données. Et donc, vous avez accès à leur notebook en ligne, mais c'est aussi un logiciel libre, et donc ça a été porté et intégré dans Quarto de façon native. Là, il n'y a pas besoin de gérer l'environnement. Vous lancez, et c'est la librairie... Observable JavaScript, Observable JS qui est chargé avec avec Quarto qui va se lancer. Et donc là, si je rends le document, ça devrait être un tout petit peu plus rapide. Voilà. Voilà. Et donc, tout ceci, c'est du rendu interactif. Bon, là, il ne se passe rien, mais je peux déplier, par exemple, j'ai des options pour replier le code. Ça reste un document HTML classique qui est servi localement. Donc, je peux réouvrir une page web. Ok, je retrouve ma fenêtre. Si je rouvre une page web, hop, j'ai accès aussi en version localhost. Et alors vous allez me dire, bon là c'est facile, on va juste chercher des données et puis on fait un petit plot, c'est une librairie qui est intégrée. C'est assez facile, mais moi si je veux faire de la carto, eh ben, je vais aller regarder un petit peu. Donc je vais regarder le notebook observable de Nicolas Lambert. Ça juste marche. Par contre, là, vous n'avez pas l'accès aux cellules par cellule. Là, c'est tout le document en une seule fois. Mais j'ai mon document qui va être interactif et qui va se générer et qui va aller chercher donc différentes librairies. Donc Bertin utilise D3. Enfin, ça fonctionne exactement comme si j'étais dans sur observable.com, observablehq.com, donc sur le site d'origine. Je crois que j'en ai fini avec la démonstration. Juste un petit point, oui, en janvier, j'avais croisé Nicolas à Rennes, et je lui demandais où c'en était, il me disait que c'était encore un petit peu, c'était pas, c'était encore un petit peu... Brut de fonderie, mais là je l'ai testé récemment. Il a aussi fait tout un atelier, je crois, avec le Bénin, et ça marche. Donc c'est encore le portage d'observables dans Quarto, c'est encore un petit peu pas expérimental, mais il y a encore des bugs, mais ça a beaucoup beaucoup avancé. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais plus comment j'arrête le partage. Voilà. Je crois que je suis dans les temps.
Ouais, super, merci Nicolas. Bah, du coup, on peut peut-être prendre 5 minutes de questions puisqu'on les a. Donc, donc, il y a eu plusieurs questions. Je vais prendre. Donc, on avait eu Nicolas Sauré donc, qui posait la question, est-ce que c'est Pandoc qui assure la conversion entre le fichier Quarto et le Jupyter Notebook, mais je crois que ça, quelqu'un a répondu, ouais, effectivement.
Ouais, il y a toute une étape, en fait. Alors, ça dépend si c'est un fichier R ou si c'est un fichier Jupyter. Mais Quarto va tout transformer en Markdown, si je dis pas de bêtises. Et le workflow est légèrement différent, mais à un moment, il passe tout en Markdown, tout dans Pandoc, et c'est Pandoc qui va générer le fichier final. C'est un tout petit peu différent de comment ça se passait dans R Markdown, et c'est différent de ce qui se passe dans Jupyter Notebook.
Je peux compléter la question. Ma question, c'était est-ce qu'il y a donc une conversion temps réel? C'est-à-dire qu'on avait les deux volets, hein, Quarto à gauche, et puis sur ta droite, il y avait la version Jupyter Notebook. Est-ce que d'une part, est-ce que on a un temps réel entre les deux, et est-ce que les cellules sont exécutables à gauche en Quarto et exécutables à droite aussi, ou est-ce qu'on a juste une vue, c'est-à-dire est-ce qu'on a juste une vue notebook sur la droite non exécutable, c'est-à-dire il n'y a pas de kernel qui tourne, ou voilà, c'était ma question.
Alors je vais repartager. Et du coup c'était pour Python ou pour
Python, oui, sur
Python. Pour Python. Et ben en fait il y a les deux. Donc là je vais fermer ça. Ici, si je lance la cellule, je vais avoir à la fois alors ça a mis un petit peu moins de temps là, puisque le serveur Jupyter qui est derrière, il est en veille. Donc là, je peux faire du cellule par cellule et je peux faire le document entier, régénérer le document entier. C'était ça la question?
La question que je me posais, c'est est-ce que le volet à droite est un Jupyter Notebook exécutable et exécuté là en temps réel, ou est-ce que il n'est que le résultat de l'exécution de Quarto et d'une conversion en Jupyter Notebook?
Ah non, là, c'est juste, il exécute le Jupyter Notebook. Voilà.
Tout, d'accord.
Bon, Toto, il n'est pas define. Ok. Bon, il n'a pas envie. Mais non, c'est juste qu'il reprend la sortie du serveur Jupyter et il la remet dans ce volet interactif. Hein. Donc non, c'est comme si j'avais bon, je fais pas de Jupyter Notebook tous les jours. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre au lieu que ce soit en dessous, c'est à côté. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose. La sortie, elle se fait à droite au lieu d'être en dessous de la cellule. Mais c'est derrière, il y a un serveur Jupyter qui tourne en fait et qui va faire tourner le kernel et qui va répondre aux questions.
On avait une autre question qui était sur est-ce qu'il y avait quelque chose comme Binder Hub justement pour exécuter les notebooks Quarto?
Alors, bonne question, je ne sais pas, je me suis pas posé la question. Je sais qu'il y a les... alors, comment ils appellent ça? Il y a des moyens de publier.
Et c'est vrai que je crois qu'il y a une réponse de Hugues qui dit qu'effectivement l'INSEE a développé une plateforme qui permet de faire ça, qui s'appelle Onyxia. Mmh. Mais effectivement, pour le moment, j'imagine qu'il n'y a pas tant de solutions que ça en ce moment.
Alors après, est-ce que c'est pour les... Ça dépend si c'est pour les exécuter en une fois et on les met à disposition et les gens peuvent les lire, ou si il faut que derrière on puisse interagir avec. Là, l'interactivité, ça devient plus compliqué.
C'est une bonne transition.
Mais je sais qu'ils ont. Je vais regarder si je trouve rapidement. Ils ont tout un. Alors la doc est juste énorme en fait. De Quarto. Vous allez sur Quarto.org, la documentation est. Vous avez pour chaque type de fichier. Voilà, ils ont un truc qui s'appelle Quarto Pub qui permet de publier directement. Alors c'est maintenu par. Posit. Après, je sais pas s'il y a une interactivité ou pas. Enfin, je connais pas les contraintes. Mais ça peut être à creuser.
C'est probable que de toute façon, vu l'engouement et vu le rythme de développement de Quarto, c'est possible que ça arrive assez vite de toute façon. Parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, le produit est assez jeune. Ça a quoi? Ça a un an, c'est ça? Ça
date de 2020. Voilà. Bah, la version 1 est sortie en 2022, mais ils ont commencé en 2020. Donc, et comme je le disais, il y a tout l'enseignement de R Markdown qui est développé peut-être depuis 8 ou 10 ans. Et donc, ils ont capitalisé sur toute cette expérience pour faire en sorte que ce soit simple d'utilisation. Ils ont corrigé des trucs qui étaient peut-être un peu compliqués à faire. Hein. Les références croisées sont beaucoup plus simples à faire. La génération de slides est beaucoup plus simple. Avant, il y avait une syntaxe particulière pour Sharingan. Là, non. La syntaxe s'adapte au R Markdown classique. Enfin, au Markdown classique, pardon.
Ok. Bon, on continue. Toi, t'avais une question ou tu veux qu'on continue?
Ok.
On essaye d'enchaîner sur la suite rapidement. Puis de toute façon, on reviendra pour les discussions s'il y a encore plein de questions. Je suppose qu'il y en aura plein.
Merci.
Merci à toi, Nicolas.
Je vais juste faire une sorte de transition puisque c'est Sébastien qui va prendre la parole maintenant. Parce que j'ai fait le site Quarto du GT et j'ai noté qu'à chaque fois que je poussais sur le Git, en fait, il y avait toute une série en fait d'opérations qui se réalisaient sur l'environnement. Et l'idée, c'est d'aborder un peu la question du complexe composite qu'on a vu là avec les différents langages, interpréteur, etc. derrière Quarto, et donc d'introduire un peu la notion de milieu d'un point de vue épistémologique, le milieu dans lequel en fait on déploie cet instrument, je ne sais pas comment on va l'appeler, notebook. Et donc là, toi Sébastien, tu vas parler justement de ton expérience.
Oui, je vais.
De packaging.
De packaging. Alors, je vais dire deux mots du packaging et puis je partage hein, du coup le HMD parce que j'ai pas de slide, mais j'ai quand même voulu écrire le texte parce que bah du coup c'était un peu dense. Je me suis dit pour 5 minutes, Alors, bah, ceux qui ont envie de regarder plus dans le détail pourront lire le texte et on pourra en discuter. En gros, le packaging, ça revient à distribuer hein, Quarto, à le distribuer pour différents systèmes d'exploitation. Donc, vous êtes sous Linux, vous êtes sous Windows, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est packagé, hein, qui ait fait en sorte que le programme trouve tout ce qu'il lui faut en fait pour pouvoir être exécuté sur votre système. Et en général, ça peut être une opération qui est délicate parce que vous voyez bien qu'il y a des logiciels qui sont parfois que sous Windows, que sous macOS, que sous Linux, et que c'est très difficile de faire quelque chose qui est valable pour les trois systèmes en même temps. Donc le boulot de packaging, c'est ça, c'est donner toutes les dépendances. Un logiciel, il va avoir besoin de plein de choses pour fonctionner. Bah, le packaging, c'est ça. Donc Quarto, on a vu, une des difficultés de Quarto, bah, c'est aussi, c'est un peu le pendant de ce qu'a dit Nicolas, c'est que ça fait plein de choses, et du coup, comme ça fait plein de choses, ça embarque plein de logiciels, plein de dépendances, et du coup, ces dépendances-là, si on veut creuser un petit peu la question de la reproductibilité, ben on va être obligé de trouver un moyen de reproduire aussi les dépendances. C'est-à-dire que Quarto, ils ont fait le choix de distribuer les binaires, c'est-à-dire les programmes qui sont déjà compilés. Donc, quand vous l'installez sous Windows, par exemple, Quarto, ben, vous téléchargez un point zip, en gros, qui contient Pandoc, qui va contenir une partie d'observable, et puis tous les logiciels qui lui permettent de compiler du Markdown et d'en faire bah, du PDF, du HTML, du JavaScript, etc., du CSS, etc. Donc la difficulté, c'est que quand on se pose la question de la reproductibilité, on a envie que ça marche, que en fait tout puisse être reproduit depuis zéro, c'est-à-dire qu'on ait toute la chaîne de production du logiciel depuis le code source, hein, l'écriture du code source, jusqu'à son exécution, donc à l'identique. Donc quelqu'un me passe un programme et je suis capable de le compiler sur ma machine et d'avoir les mêmes résultats que la personne qui me l'a passé. Donc ça c'est l'idéal. Donc on peut le faire avec Quarto directement en utilisant les binaires, mais si on veut aller plus loin, il faut pouvoir compiler le code source. Et la difficulté avec Quarto par rapport à R Markdown à l'époque, R Markdown en fait était relativement simple, il y avait juste besoin de Pandoc installé et besoin à côté de R Studio, de R et puis de et c'est tout, et du package R Markdown. Quarto, lui, il est composé de beaucoup plus de choses, et donc c'est l'ensemble de ces choses, il faut qu'elles puissent être, qu'on ait le code source aussi, et qu'on puisse les compiler. Et vous allez voir que Quarto, même si le résultat est le même que R Markdown, finalement, c'est le sommet de l'iceberg, et le dessous de l'iceberg, bah, il est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de dépendances, et ce qui fait que Quarto est un logiciel difficile à packager. Donc, je vais parler un petit peu de Guix parce que c'est en ce moment, c'est à la fois, c'est un gestionnaire de paquets et un système d'exploitation qui est tourné vers la reproductibilité, qui est made in France, on peut le dire. Donc, ça fait plaisir. C'est l'INRIA qui pousse derrière et puis il y a quand même une certaine communauté qui croit d'année en année. Et donc vraiment, le but de Guix, c'est de pouvoir offrir des logiciels qui sont reproductibles, donc compilés, et ça dans le temps. Donc une des grandes forces en fait de Guix, c'est que ça va se concentrer sur trois grands points, hein. Il y en a d'autres, mais donc la possibilité de compiler le code source des programmes, ainsi que toutes les dépendances associées, donc Quarto, Pandoc, tous les logiciels qui vont venir, on va récupérer le code source puisque c'est des logiciels libres, et on va les compiler depuis zéro. La possibilité d'isoler ou de faire cohabiter différentes versions de programmes en même temps sur le même système. Ça, c'est vrai que si vous êtes sous Windows ou si vous êtes sous Linux, même c'est pas forcément évident. On vous passe un programme qui a été fait en R 3.5 avec la version taille diverse 2.8.3 et vous le passez à quelqu'un qui, lui, a la version de R 4.2 sur son ordinateur. Il va pas désinstaller R pour réinstaller une nouvelle version. Donc, soit ça marche, soit ça marche pas. Vous n'avez pas la possibilité de revenir dans le temps pour lancer son programme. Mais ça, justement, avec Guix, vous allez pouvoir revenir dans le temps et exécuter son programme. Donc, on peut reproduire comme ça, si la personne, elle a aussi Guix d'installer, vous allez pouvoir récupérer son programme et le compiler et le lancer exactement comme lui, même si vous avez la dernière version de R aussi. Donc, les choses cohabitent. Et Guix, il faut savoir que ça s'installe au-dessus d'un système d'exploitation, c'est aussi un gestionnaire de package. Donc, si vous avez Ubuntu, vous pouvez installer Guix et faire cohabiter des programmes entre eux. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, Le problème des dépendances, si vous faites un peu de R ou de Python, vous le connaissez, c'est un petit peu, dès que vous voulez distribuer un logiciel, ben vous êtes obligé de maintenir des versions et de maintenir des dépendances. Et finalement, dans le temps long, on voit que c'est compliqué de maintenir un système de dépendance qui est cohérent. Le logiciel, il évolue et il faut que les gens suivent en fait le développement du logiciel pour continuer à avoir des versions qui marchent. Donc, on connaît un certain nombre de choses pour faire ça, hein, les conteneurs Docker, les logfiles, tout un tas de trucs. Et Geeks va plus loin. Donc, je rentre, voilà, je vais présenter la petite figure hein, que vous voyez à droite, qui est celle qui a été faite par Conrad. On sait bien que ben, le Quarto, en fait, nous, on s'intéresse au notebook et puis au logiciel de ma discipline, éventuellement à l'infrastructure scientifique partagée. Et en fait, on ne connaît pas toutes les basses couches en fait qui vont faire que Quarto va pouvoir être exécuté sur un ordinateur. Quarto dépend de tout un tas de dépendances, et c'est ça qui est compliqué à packager. Juste pour vous donner une idée de la complexité de la chose, Quarto est écrit en JavaScript, en TypeScript, qui lui-même dépend de Deno. Deno, c'est écrit dans le langage Rust, avec son propre gestionnaire de package. Deno, en lui-même, donc dépend d'une partie JavaScript du navigateur Chromium, cette partie du navigateur qui interprète le JavaScript, c'est à lui seul juste 600 000 lignes de C++. Donc, compiler 600 000 lignes de C++ sur une machine normale, en fait, c'est 2 heures de compilation sur une machine. Donc, déjà, on voit que si on creuse un petit peu, on est très loin du simple plugin pour R, du package R. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à packager. Et donc, la question de la reproductivité avec Quarto, hein, elle va se poser là. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est difficile à packager. Et maintenir, en fait, cet ensemble de dépendances de façon cohérente pour que les gens puissent le compiler en entier sous Guix, ça veut dire qu'à chaque nouvelle version de, quelque part, d'une dépendance, que ce soit Pandoc, ou Deno, etc., si c'est mis à jour, bah, du coup, il va falloir revenir en fait sur le packaging qu'on a fait pour le modifier, pour le recompiler et voir que ça marche. Donc j'en viens à la conclusion, hein. En tant que débutant, moi j'étais débutant sur Geeks, bah du coup ce que j'avais pas compris c'est qu'en packageant Quarto en fait je m'étais juste attaqué à un truc qui était très très dur, donc j'en ai un peu bavé pendant plusieurs mois, mais j'ai quand même réussi à packager 95% on va dire des dépendances. C'est pas fini mais je suis plus très loin, donc on va quand même avoir un prototype pour faire tourner ça sur Guix depuis, en compilant toutes les sources, donc pour essayer d'avoir de la reproductibilité. Mais par contre, voilà, Quarto, même s'il a l'air mature en tant que tel en termes utilisateurs, c'est un logiciel, si vous regardez le code source, qui bouge beaucoup encore. Il y a beaucoup de commits, il y a beaucoup de versions, il y a plusieurs releases par semaine, donc plusieurs versions par semaine, avec des dépendances qui changent beaucoup, et ça repose sur toute une chaîne de dépendances qui elle-même bouge beaucoup. Donc en fait, d'un point de vue purement logiciel, Quarto est plutôt immature et plutôt, enfin, immature au sens où il n'est pas stable dans son développement logiciel. Donc c'est génial Quarto, j'ai rien contre Quarto, c'est génial, mais il faut avoir ça en tête que sur la question, sur la problématique de la reproductivité, on est encore loin de ce qu'on pourrait attendre d'un logiciel qui voilà va produire beaucoup de notebooks et on aimerait qu'il soit reproductible en plus. Donc voilà, il y a du boulot encore. Désolé, j'ai un peu dépassé. Et je laisse la main à Raphaël.
Il y a beaucoup d'échanges dans le chat, là. J'ai reporté une partie des liens et de ceci dans le document partagé. Alors, je vais pas vous faire une revue de lecture de Feinberg brutale comme ça, parce que c'est un petit peu un langage... comment dire, un jargon philosophique. Mais l'idée principale, c'était de, par l'exemple qu'on a ici, introduire un peu deux notions en termes d'épistémologie, qui sont la concrétisation et le milieu. Donc là, avec à la fois la démonstration de Nicolas, et puis après la description du packaging de Sébastien, on voit bien qu'il n'y a pas que... Je m'entends en écho, putain, le micro. Et on voit bien que en fait, la notion de milieu, elle inclut bien entendu tout l'environnement, on va dire machine, qu'il y a derrière l'écran, Et bon, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, Nicolas, en tout cas, dans ce que tu as présenté, c'est qu'on voit bien l'exécution du code, les difficultés tout de suite de la rapidité ou la lenteur de l'interprétation de ton code pour faire afficher, en fait, toutes les fonctionnalités que tu attendais du notebook. Bon, la concrétisation, en fait, c'est un principe qui dit que finalement dans l'évolution des techniques et des technologies dans le champ dans lequel on se trouve, c'est qu'on va trouver plusieurs fonctionnalités à une machine, si on prend le notebook comme une machine par exemple, une machine informationnelle, une machine de manière générale. Et donc plus on va introduire d'informations, plus elle va peut-être se stabiliser ou alors adopter, diverger et adopter d'autres fonctionnalités que celles qu'on attendait. Donc voilà pour la notion un peu de concrétisation des machines. Et puis l'aspect milieu appelle en fait à une autre notion quelque part, c'est que finalement, en montrant plusieurs exemples, comme l'a fait Nicolas, on voit bien qu'à partir d'un même QMD, on va dire, avec son environnement et son milieu, on peut produire en fait bien une très grande diversité. Il y a des grandes possibilités en fait de produire des notebooks très différents avec des fonctionnalités très différentes aussi. Et donc c'est pour ça que quand on va parler du notebook et de l'épistémologie du notebook, on va aussi parler finalement de tous les possibles qu'il y a derrière, et donc plutôt de sa genèse que de ce qu'il est au moment où on l'a terminé. Et c'est dans cette perspective-là, en fait, qu'on cherche à faire l'épistémologie du notebook, et notamment la question de l'approche écosophique, qui est en fait une continuation de ces approches-là. Et dans le texte, en fait, de Fenberg, alors Fenberg, en fait, c'est un chercheur américain qui a travaillé, bien entendu, sur la question du constructivisme de la connaissance. C'est un ancien étudiant d'Herbert Marcuse, et qui propose en fait de réconcilier un petit peu ce qu'on appelle le social et le technique, hein, parce que les constructivistes regardaient surtout les usages, et les historiens ou les ceux qui font l'histoire de la technologie, des techniciens comme on dit, s'intéressaient plutôt à la technicité de la machine. Ici l'idée c'est vraiment de lier les deux, hein, c'est ce qu'il dit, et de tenir compte non seulement hein, des rapports, quand on voit l'exemple de Sébastien, en fait il l'a peut-être pas dit, mais enfin il a consulté plein de gens pour pouvoir packager son Git.
Je suis pas arrivé tout seul.
Voilà. Il a posé des questions, il a cherché, il y a aussi, il m'a dit, parce que j'étais à côté de lui à ce moment-là, de méthode empirique, avec tester un peu les options de manière un peu random, hein, c'est ça. Bah,
les 500 options en ligne de commande, voilà. Qu'on peut passer à Chromium.
Voilà, donc il y a aussi à la fois l'empirique et puis effectivement plutôt le déductif, c'est-à-dire l'idée ici quand on va approcher, et c'est un peu la proposition de Fenberg quand il relie les aspects d'usage et les aspects de technicité en fait de ces machines, c'est de ne refuser aucune des deux, à la fois de réfléchir à l'usage des notebooks, mais dans un cadre paradigmatique, c'est qu'est-ce qui nous amène à construire tel usage en fait. Est-ce que cet usage était une finalité ou est-ce qu'elle arrive par hasard finalement? Et laisser un petit peu cette réflexion se poser en ce sens-là pour permettre aussi de l'invention et de la création au sein du GT en interrogeant ces éléments-là. Et puis sur l'approche écosophique, hein, comme je vous ai dit, moi quand j'ai touché mon, je sais pas si c'est le terme qu'on emploie, le Quarto pour le site web du notebook, à chaque recompilation dans l'environnement R du GitLab, bon, ça prend un certain temps, ça consomme de l'énergie. Est-ce que il est nécessaire de mobiliser des grosses machines de 6 millions de lignes de...
Non, 600 000.
600 000, déjà, voilà, 600 000 pour faire une publication HTML statique. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des questions qu'on peut poser. Donc, moi, je vous invite, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que disait Fenberg, c'est un peu jargonneux, mais je crois que ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est que dans la problématique qu'on pose ici, on ne se limite pas à des cas d'usage, on ne se limite pas à la technicité, mais bien à la relation entre les deux, et qui nous amène en fait à poser des questions beaucoup plus larges sur cet objet qui est à la fois un objet d'une très grande technicité, une machine, et à la fois un objet éditorial. Et ça, les questions qu'on se pose justement couvrent un petit peu les quatre champs de réflexion qui est exposé tout à l'heure Sébastien. Alors, pour ceux qui sont allés dans le HMD, je crois que j'ai mis la citation de Pierre Canguilhem en photographie. Ouais, elle y est. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil parce que c'est un texte qui est assez court, mais quand on le lit la première fois, on a besoin de le relire pour bien le comprendre. Et puis, celles qui souhaitent un petit peu comprendre un petit peu toute cette logique épistémologique qui est héritée en fait de la philosophie de Bachelard, une école française en fait de philosophie de la technique. Voilà, on vous invite éventuellement à intégrer le travail et le projet qu'on a de construire une base de connaissances collective sur le GT. Je vais m'arrêter là parce que on va laisser encore un peu de place éventuellement aux questions ou aux commentaires. Voilà.
Ce qui est bien, c'est qu'on a fait du coup, on a un petit peu présenté les axes sans vouloir, hein, parce que quelque part il y a le volet épistémo, littératie numérique, il y a eu un petit peu le volet reproductivité, le volet outils. Donc vous voyez ça, on voit que le notebook, on peut l'aborder sous plein d'angles différents et qu'il y a de la place pour faire des groupes de travail un petit peu sur plein de choses. Hein, et on en a pas trop parlé dans l'introduction, mais on aimerait monter on a commencé à monter. Et on va se repencher dessus, mais sur une base de connaissances qui permettrait un petit peu de fédérer toutes les discussions qu'on a hein, sur ces axes-là pour pouvoir les présenter sur Internet, quoi. Voilà.
On avait donc un dernier point, mais sauf s'il y avait des collègues qui voulaient s'exprimer. Sur la suite, en fait, le prochain webinaire, donc on en a, enfin Nicolas l'a évoqué, j'ai noté le mot clé interactivité à plusieurs reprises dans sa démonstration. Donc on va faire un focus en fait sur cette question-là avec Conrad sur la prochaine séance qui aura lieu le 13 avril. C'est aussi un jeudi à la même heure. Et on vous invite en fait des collègues qui sont intéressés éventuellement à participer, à monter une séance du webinaire. Tout ça, c'est ouvert et ça se construit collectivement. Alors, notre plateforme, hein, et on remercie les collègues qui sont présents Domanum, la plateforme qu'on utilise, c'est la GitLab Domanum. Et donc, on a un groupe, GT Notebook, dans lequel, bien entendu, vous pouvez vous inscrire et vous poser là où vous le souhaitez ou vous atterrissez éventuellement dans le programme. Je ne sais pas, Conrad, ou Michael aussi, tu avais parlé de storytelling. Storymap, pardon.
Oui, bonjour. C'était juste pour faire un petit retour d'expérience, parce qu'il y a une collègue là qui est personnelle de support, un peu comme moi, qui a essayé de répondre à une question d'une chercheuse qui voulait faire du story map. Donc c'est une manière de faire un peu presque de la vulgarisation scientifique où on va faire une narration autour d'éléments plutôt cartographiques et puis qu'on complète avec souvent des enregistrements audio ou vidéo. Et donc la chercheuse en question demandait si à l'université on avait payé des licences pour ArcGIS StoryMap, donc une solution un peu clé en main qui permet de fabriquer ces objets numériques un peu complexes, un peu interactifs. Et donc la réponse était non, notre université paye pas de licence pour fabriquer des outils et puis toi, est-ce que tu as des expériences de fabrication de story map? Je sais, ben non, moi j'y connais rien. Et j'avais entendu parler de Quarto, et donc juste pour le fun, on a essayé de voir si Quarto, par sa capacité à nous permettre d'avoir à la fois du texte à lire pour nous humains avec une narration, et puis sa possibilité de créer des cartes interactives, là comme on avait vu, ou des représentations graphiques, ben on arrivait à faire à peu près l'équivalent de ce que pouvait proposer ArcGIS StoryMap. Donc on a fait une petite expérience qui est disponible d'ailleurs sur le Git du Manum, je vous le mets en lien là. Et ça nous a permis d'essayer d'intégrer dans un objet numérique Quarto à la fois du texte, des images, du son, mais aussi des images haute résolution qu'on avait pu déposer sur Nacala d'Humanum. Donc Humanum Nacala, là, c'est notre infrastructure de recherche nationale en sciences humaines, où il est possible de faire des dépôts d'images en haute résolution, et il y a un serveur 3IF qui permet de livrer les images à la volée et de faire des beaux zooms interactifs. Donc oui, on peut intégrer dans un objet construit à partir de Quarto, des images zoomables avec 3IF. On a vérifié aussi que oui, on pouvait générer des cartes soit avec du Python, soit avec du R ou soit avec du observable. Donc sur ce volet-là, on arrive à fabriquer des cartes qui donnent l'impression qu'elles sont interactives. Là, quand on clique dessus, il se passe des choses. Donc le spectateur peut un peu interagir sur la carte et puis avoir un peu d'interactivité. Donc je dirais que il y a peut-être une piste pour fabriquer des story maps avec Quarto et sa possibilité là de combiner du texte, des images et des choses comme ça. Et avec nous, on a utilisé le rendu, non pas site web classique, mais le rendu là comme vous aujourd'hui, mode présentation avec Reval.js. Donc voilà, on a fait un petit essai un peu rigolo comme ça. Je dirais qu'un des gros avantages quand même avec cette technique, c'est que on écrit notre contenu en plein texte avec le balisage et on en reste un peu maître et on sait ce qu'on a fait. Et j'ai envie de dire, même si Quarto fonctionne plus dans 10 ans, si moi j'ai gardé ce source là qui est du plein texte, j'imagine qu'un autre outil pourrait refabriquer un rendu qui ressemblerait vaguement à ce que je voulais faire à l'époque, parce qu'on a encore le source, quoi. Alors que quand on utilise les outils en ligne, là, type ArcGIS Story Map, c'est quelque chose où on fait que du clic, du drag and drop, des choses comme ça. Et en gros, ce résultat-là, cet objet numérique qu'on a construit par clic et drag and drop, on en perd un peu le source. Le seul moyen d'export, là, j'ai regardé sur ArcGIS, hormis le site web qui nous laisse à disposition tant qu'on paye mensuellement, c'est de générer un PDF et qui lui pour le coup sera très statique, bien que moi je m'étais embêté à saisir tout un tas de positions, de coordonnées spatiales, de qu'est-ce qui se passe quand je clique sur telle chose, est-ce que ça lance un audio ou pas, donc j'ai perdu en quelque sorte pas mal de ce que j'avais construit. Donc je trouve il y a peut-être un petit pan d'expérimentation à faire sur cet outil à Quarto pour le story map. Petit retour.
Super.
Merci beaucoup. Ghislain, tu peux t'inscrire sur le guide. On cherche quelqu'un pour le mois de mai.
De mai, effectivement, on a des personnes pour le mois de mai, mais si ça peut, si Ghislain, vous êtes disponible, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on avait échangé avec Computo qui effectivement bien résumé là, hein. C'est-à-dire que nous on a du côté d'Erzine avec Hugues, on a aussi l'équivalent un peu, on essaye de faire un peu l'équivalent en sciences humaines et sociales. Donc on avait échangé sur les aspects éditoriaux, comment faire pour publier en fait des notebooks en ligne. Et donc c'est une question qui est très très intéressante parce que ça pose le à la fois le problème de la reproductibilité, mais aussi de la perduration en ligne de l'infrastructure, de la review de code à plusieurs, donc des questions de gouvernance, des questions d'infrastructure, des questions de littératie. Donc tout ça pourrait être effectivement discuté avec différents angles interdisciplinaires. On pourrait revenir dessus en tout cas. C'est une chouette idée. Ouais. Il y a aussi la proposition de Hugues, hein, qui me paraît très bien. Alors moi je connais personne chez Onyxia, mais effectivement la structure qui est open source. Alors peut-être Hugues, tu veux en dire deux mots. Peut-être tu le diras mieux que moi parce que toi tu as vu la présentation.
Justement, vous m'entendez là? C'est bon?
Ouais.
Oui, justement, j'aurais besoin d'une seconde présentation. Mais en fait, c'est une plateforme qui est développée par l'INSEE pour répondre à des problématiques qu'on rencontre tous. Hein. Ça permet de. C'est un peu, si vous voulez, comme un RStudio serveur pour ceux qui font du R, sauf qu'on peut faire du Python. Et sauf que ça repose pas sur l'outil RStudio Server, hein, c'est un RStudio Desktop en fait qui est déployé en ligne. Du coup, ça repose uniquement sur des outils libres. Et cette plateforme là, alors qui est proposée par l'INSEE, qui est ouverte normalement à l'ensemble des membres de l'ESR et même des fonctionnaires, on va dire comme ça. Pour l'instant, ils ont une politique d'ouverture assez libre, on va dire. On verra à l'avenir si beaucoup de gens s'inscrivent sur la plateforme. Mais en tout cas, ça permet de travailler de manière collaborative sur un seul même projet. Ça permet de faire des notebooks aussi en ligne et notamment des notebooks Quarto. Et ça offre aussi d'autres fonctionnalités qui n'existent pas sur ces plateformes-là, comme par exemple le stockage de données volumineuses ou l'utilisation d'images Docker personnalisées. Voilà. Et c'est un outil qui peut être aussi, qu'on peut réinstaller, pouvoir réinstaller sa propre instance sur son propre serveur. Donc voilà, moi la présentation que j'avais vue qui a été faite dans le cadre des séminaires russes organisés par l'INED et le HESS, j'avais trouvé ça, c'était très prometteur, donc je pense que ça peut être bien que l'équipe de développeurs de l'INSEE vienne présenter ça dans le cadre du GT Notebook.
Ok, super. Effectivement, il y a Nico qui a l'air de connaître quelqu'un qui bosse dedans aussi. Donc,
Je sais pas s'il y a encore, en fait. Mais il doit être encore à l'INSEE. Est-ce qu'il s'occupe encore de Nixia? Je sais pas. Mais au moins, il saura m'orienter vers quelqu'un. Je lui propose.
J'ai mis des noms dans le chat. C'était les trois qu'avait présenté dans le cadre du séminaire russe.
Alors pour répondre à Ghislain sur la question de la recherche reproductible, hein, effectivement le réseau qui se met en place au niveau national, effectivement on a des gens là du réseau qui sont là, que ce soit Nico Larougier ou Conrad, qui font partie du COPIL, enfin du noyau un peu du GT Notebook. Donc oui, on participe aussi de ce réseau indirectement, hein, c'est clairement une des facettes qu'on veut suivre et développer. On est dans les temps. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques ou des infos à faire passer vu qu'on a encore une bonne quarantaine? Ouais.
Demain, vous avez l'AMITI, hein, le groupe de travail Atelier de la donnée qui propose une intervention aussi sur Quarto. Je crois qu'il y a aussi Observable et
par Nicolas, justement Lambert qui présente Observable et Quarto
à 10h demain matin, et le lien donc figure dans le code IMD, enfin dans le HMD qu'on vous a envoyé tout à la fin, où on a reporté des informations qui étaient notamment dans le chat, les liens, etc. Donc vous le trouvez ici dans notre partagé, c'est le HMD.
Et je vois qu'il y a des discussions là sur plutôt des aspects techniques sur le WASM et le fait que maintenant on peut faire tourner des notebooks directement dans le navigateur en natif, hein, sans avoir besoin de serveur. On peut faire tourner du R ou faire tourner du Python du fait d'une compilation en WebASM. C'est clairement effectivement une piste qui est super intéressante aussi. Et s'il y a quelqu'un qui se sent de nous parler de ça plus sur un volet technique, hein, moi je suis très intéressé pour avoir plus d'infos là-dessus. Faire un peu un comparatif, voir qu'est-ce qui existe du côté de R, du côté de Python. Il y a des belles choses aussi, parce que ça, pour la reproductibilité, évidemment, c'est chouette aussi, quoi.
Merci Mathieu. Juste pour rajouter sur R dans WebAssembly, en fait, c'était le but, c'est de remplacer Shiny, parce que Shiny permet d'avoir des sites web interactifs. Vous allez pouvoir interagir avec les données, donc pour faire des dashboards typiquement. Mais l'inconvénient, c'est que vous devez avoir un serveur Shiny que vous hébergez. Et donc, ça demande une infrastructure qui est parfois, des fois, un peu lourde. Si on veut juste avoir un site web avec un petit peu de données, là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les données en JSON, on charge dans la page web, et directement avec la page web, on peut interagir et même utiliser du code R dans la page web, dans le navigateur. Pardon.
Ouais, non, mais c'est super de préciser, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde.
Pourrais-tu
répéter?
Oui, pour l'événement de demain. Donc, c'est l'atelier de la donnée de la MITI CNRS qui propose. Ils ont envoyé ça sur Devlog, ils ont envoyé sur plusieurs réseaux. Et le lien figure dans la KMD. Donc, 2 heures de présentation sur. Je crois que c'est les données. Et donc, Quarto fait partie, Observable, et Ellie, qui est, je crois, un autre logiciel qui est plus sur les données. Mais le programme, je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez l'avoir. Étoiles partout. C'était sur le code IMD. J'invite vraiment les personnes qui souhaitent échanger avec nous et éventuellement co-construire et notamment préparer cette journée annuelle, si on arrive à l'organiser, trouver ouais. des financements, un lieu, etc. N'hésitez pas. Vous êtes en grande partie inscrits sur la liste de diffusion. Vous pouvez nous adresser un mail et puis en fait on fonctionne par les volontés des collègues pour construire tout ça, quoi.
Oui, non, c'est vrai que c'est on a plutôt fonctionné sur le mode émergent, hein, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec un projet, une action qui lui plaît, hein, et puis par exemple Hugues nous a parlé m'a parlé récemment là de d'Oranum qui veut faire des supports un peu pédagogiques, bah voilà, du coup c'est on en discute et puis on se met à plusieurs, on construit quelque chose, on le présente aux autres et on fonctionne un petit peu comme ça, quoi. Voilà.
Il y a aussi bien entendu des enjeux, comme je vous le disais, écologiques sur la démarche.
Ah, c'est ça, je pense qu'il faut choisir le bon outil, puis le bon. Voilà. En tout cas, on essaye de faire en sorte que tout le monde connaisse les tenants, les aboutissants des 20 infrastructures aussi qu'il y a derrière. Je pense qu'on a tous à y gagner, à essayer de choisir le bon outil pour faire effectivement limiter l'impact en ressources. Ça, c'est sûr.
Voilà. On va pas débattre.
Je sens qu'il y a un grand débat qui est parti sur la question de web ASM qui effectivement est une grande question mais qui est une tendance qui émerge. On va vous remercier puis les échanges de toute façon merci d'être tous venus puis les échanges de toute façon continuent sur le chat si vous en avez envie, hein. Il y a un chat qui est là pour ça sur le Rocket Chat de ESUP et je pense que là on peut discuter à loisir avec plaisir. La vidéo, je pense qu'elle sera en ligne demain. Enfin, on la récupère que demain, vu comment marchent les bébés. Donc, on essaiera de la mettre quelque part. Puis, comme ça, peut-être on remettra le lien sur le site. Hein, je sais pas comment, on va voir comment on la stocke. Encore des questions à régler. Mais voilà. Ben, merci à tous. Et puis, à la prochaine fois, hein, le 13 avril. Donc, voilà, pour les questions d'interactivité.